Un rideau se tire. Un rideau se lève. La nuit crépite son vivant quand le petit matin lui dit « Viens, 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 viens. » Éduquer, verbe transitif du latin « éducare », former quelqu'un en développant et en épanouissant sa personnalité. A, préposition du latin « ad », vers, aller vers, se diriger, se mettre en mouvement dans le rythme de sa vie. Environnement, non masculin, ce qui entoure de tous côtés, voisinage, environné, de environ, de l'ancien français viron, cercle, rond, autour de. Bienvenue dans la Drôme Nature, l'ADN, chronique drômoise de l'éducation à l'environnement. Depuis la nuit des temps, les grands accompagnent les enfants. Dehors, dedans, des parents, des animatrices, animateurs, éducatrices, éducateurs, accompagnent les plus jeunes au cœur de leurs apprentissages et leur transmettent des connaissances sur leur environnement qui leur permettent de grandir, s'épanouir et s'adapter au fil des changements. Comment éduque-t-on à l'environnement, aujourd'hui, dans la Drôme? 2000 façons, me diriez-vous, et vous auriez raison. C'est à travers le réseau drômois d'éducation à l'environnement, le RDEE, que je nous emmène découvrir ce monde local qui nous entoure. La raison d'être de ce réseau, soutenu par le Conseil départemental, est de promouvoir l'éducation à l'environnement dans le département de la Drôme. Il a pour objectif la mise en lien, la mutualisation des pratiques et des ressources, la coordination de projets et le partage d'expériences dans le champ de l'éducation à l'environnement à l'échelle départementale. Sans plus attendre, voici donc notre portrait du jour. Alors, je vous emmène aujourd'hui au jardin de Samar, à Mirabel-et-Blacon, pour aller rencontrer l'association Compost et Territoire, avec Blandine de Montmorillon, sur un événement un peu particulier, dans un jardin partagé. Bonjour Blandine.
Bonjour. Alors, Compost et Territoire, on est né en 2015. En fait, moi je faisais de la formation guide composteur et référent de site, c'est deux types de formation que j'avais appris depuis l'Isère où j'habitais avant. Et jusqu'en 2015-2016, j'ai fait ces formations pour Valence et Romans. Et en 2016, il y a une des filles qui a fait la formation, Audrey, qui est venue me voir à la fin en me disant franchement, il faut qu'on fasse quelque chose. Il y a un vrai besoin sur Valence et sur le département. On n'a pas de composteur collectif, il faut qu'on développe le compostage. On pourrait faire une asso. Et c'est comme ça que c'est né. Avec Audrey Moreau, on a fait une asso fin 2015. On a passé l'année 2015 à chercher des sous et faire des contacts et tout ça. Et en 2016, on a eu une idée de faire un petit périple en vélo. Ça s'est appelé Compostelle, parce qu'on était deux filles. Et c'était toutes les... on avait déjà des contacts dans la CCVD, Val-de-Drôme, et donc on a fait les 30 communes en vélo pendant une semaine. Et à chaque fois, on faisait un petit diagnostic. On regardait où c'était intéressant de mettre un composteur ou pas, si c'était trop petit pour les composteurs collectifs. Et à chaque fois, on rencontrait les élus, ou bien l'école, ou bien des habitants. On faisait une petite animation. Et surtout, on restait dormir sur place. Avec nos vélos, on allait de commune en commune. Et comme ça, on a fait des contacts vraiment privilégiés. Et à la suite de ça, on a pu avoir notre premier contrat avec la CCVD, Val-de-Drôme, de 9 composteurs en 2017, puis 9 autres composteurs en 2018, ce qui est quand même très bien. Les composteurs collectifs pour 30 000 habitants, c'est quand même bien. Et c'est comme ça que notre travail a commencé. Pendant ce temps-là, on avait pas trop de boulot sur l'agglo de Valence parce qu'ils avaient pris une autre direction et pas tellement celle des composteurs. Donc on s'est mis de plus en plus à travailler vers la vallée de la Drôme, la communauté de communes d'à côté, donc 3 CPS, c'est-à-dire Crétois, Pays de Saillant, un petit peu le Diwa. Et puis maintenant, on commence à travailler plus avec un autre syndicat de traitement qui est dans le sud, le CIP, qui couvre tout le sud du département. Pendant ce temps-là, notre association s'est étoffée, on a eu des adhérents, on a commencé à faire un peu les festivals, des stands dans des endroits où on parlait de compostage. On a développé aussi le gaspillage alimentaire. Et puis, il y a un collègue en 2016 voilà, qui nous a rejoint, Julien, qui avait déjà l'habitude du compostage autonome, c'est-à-dire en établissement, dans les endroits où il y a des cantines. Et là, on a eu un contrat avec le département de la Drôme pour installer des composteurs dans les collèges. Voilà. Donc comme ça, on a différents types de contrats. On fait aussi de l'animation scolaire avec un programme qui a été développé aussi par le Val-de-Drôme, Ça bouge dans ma cantine, qui est très intéressant parce qu'il s'agit de mettre en lien les producteurs locaux de fruits et légumes avec les cantines et d'arriver à faire des menus plus végétaux, plus bio, sans changer le prix du menu. Du coup, en faisant la cuisine autrement. En général un composteur dans l'école à la fin. Voilà, donc c'est un peu un programme assez large qui fait donc appel à de l'animation, de la formation, parce que je continue à faire avec Julien de la formation des référents de sites, c'est ceux qui suivent les composteurs collectifs, et des guides composteurs qui sont pour nous les ambassadeurs du compostage, parce qu'ils vont nous chercher des nouveaux sites, ils vont nous chercher d'autres personnes, ils vont en parler à leur mairie, ils vont faire un article pour le journal, enfin, c'est les personnes qui nous aident à faire des vagues pour faire avancer le compostage. Je pense que c'est comme ça, en valorisant les gens, en leur donnant plus de billes, en leur donnant plus de connaissances, qu'on va avoir un travail qui va aller plus loin et puis que les gens bénévoles seront aussi valorisés et dynamisés, quoi. Ils sont en contact les uns avec les autres et c'est vraiment un public très intéressant. C'est des gens motivés. Au début, on commence en parlant du compostage. Mais après, on va parler de plein d'autres trucs. On va parler des recettes de cuisine, on va parler de notre mobilité en vélo. Enfin, on va avoir tous les thèmes qui sont liés à notre façon de vivre qui vont ressortir. Et ça va être vraiment un bouillon de bonne culture.
Comment l'association est rentrée dans le réseau de Remois d'éducation à l'environnement ?
Ça a commencé un peu avec moi, parce que moi j'étais déjà dans le réseau avant l'existence de Composé Territoire, puisque j'avais une auto-entreprise Fumeterre, donc j'étais déjà dans le réseau depuis 2012, je pense. Je venais de l'Isère, où il y avait la Frapna, qui avait déjà un peu le même réseau. Donc quand je suis arrivée dans la Drôme, j'ai cherché le réseau et j'ai trouvé le réseau qui était un petit peu tout neuf, hein, le RDE en 2012, il est commencé tout juste. Et puis après, quand on a fondé Composté Territoire, ça a été tout naturellement que le thème du compostage est venu compléter tous les autres thèmes d'animation qui étaient déjà développés au RDE, quoi. Ce qui fait qu'on est très spécialisé sur le compostage gaspillage alimentaire, mais du coup on peut rayonner sur tout le département. C'est quand même maintenant par les villes que le compostage se développe, parce que dans les villages, les gens ont encore pas mal de composteurs individuels. C'est pas encore un vrai problème. Par contre, dans les villes, quand on ne peut pas avoir un jardin et qu'on sait qu'en 2024, il y aura obligation du tri à la source des biodéchets, c'est-à-dire qu'il faudra que tous les Européens aient un système pour ne plus mettre leurs biodéchets dans la poubelle, ça veut dire qu'il faut installer des composteurs collectifs, quoi. Sinon, l'autre système, c'est de refaire de la collecte en porte-à-porte des biodéchets. Mais ça, c'est pas adapté. Dans un département où on a encore pas mal de villages, on va pas revenir faire passer des camions, des transports pour refaire une collecte de biodéchets. Ça coûte très cher et puis il n'y a pas beaucoup de collectivités qui veulent revenir à ça. Donc voilà, il y a une vraie nécessité d'installer des composteurs. Du coup, on pense qu'on a un travail à développer énorme et on peut profiter du réseau parce qu'on profite des autres collègues qui sont dans d'autres communes qui peuvent nous parler de projets. On peut venir dans d'autres communes à la faveur d'un festival ou d'un événement lié au RDE. Voilà, on profite un peu de tout ce qui peut nous permettre de faire de l'information sur le compostage et le gaspillage alimentaire. Parce que gaspillage alimentaire, ça vient avant le compostage dans les écoles. Ça ne sert à rien de composter des trucs qui sont du gaspillage. Le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. Donc actuellement, il y a cette obligation du tri à la source qui commence à faire parler tout le monde parce que 2024, c'est vraiment demain et on n'est pas du tout prêt. Ça, c'est sûr qu'on n'est pas du tout prêt. Mais il y a des collectivités qui sont plus en avance parce qu'elles ont fait ce travail de petite fourmi. En fait, on fait vraiment du travail de fourmi, comme le Val de Drôme et puis donc toute cette vallée de la Drôme, enfin la Biovallée un peu. À partir du moment où on commence à installer des composteurs, de village en village, il y a une sorte d'émulation et ça fait un peu une tache d'huile. Voilà. Et pour nous, c'est vraiment ça la bonne méthode, parce que c'est du compostage citoyen de proximité, c'est-à-dire au plus près des gens. Et on complète ça avec des animations en déchetterie pour éviter que les gens emmènent leurs déchets verts en déchetterie, parce que ça aussi, c'est un problème, ça coûte très cher, et les déchets verts ils doivent rester dans les jardins pour nourrir les sols et non pas partir en déchetterie. Donc on fait de l'information aussi en déchetterie, et on fait aussi de l'information quand les gens achètent un composteur individuel. Parce qu'on s'est aperçu que dans les stands, les gens ils nous demandaient « Ouais, ok, moi je mets mes déchets dans le composteur, mais après, j'ai jamais de compost. » Ce qui est dommage, parce qu'en fait, ils brassent pas, ils remuent pas, donc ça sent mauvais ou ça sèche. Et du coup, il y a quelques petites techniques faciles à comprendre, mais ça, il faut le savoir. Donc on fait ça quand ils achètent un composteur, dans la communauté de communes du Val-de-Drôme, on fait une information d'une heure avant de leur vendre le composteur. C'est des nouveaux composteurs en bois qui sont très jolis, qui sont fabriqués à Recoubo d'ailleurs, donc par un ESAT. Donc on a tout bon sur le côté environnemental, le côté écologique, parce que c'est du mélèze non traité qui vient de la Loire. Donc on a tout bon. Au début, ils ne sont pas très contents parce qu'il faut qu'ils attendent une heure avant d'avoir leur composteur. Et après, en fait, ils sont très contents parce qu'ils ont eu plein d'infos et que ça change leur vision du compostage et que ça peut pour nous être des futurs ambassadeurs parce qu'ils sont un peu plus informés que les autres. Donc on aimerait beaucoup développer ça un peu partout. Il y a plein de collectivités là qui vont distribuer des composteurs domestiques à tour de bras, sans information ou avec juste un petit livret. Et ça, pour nous, c'est pas... Les livrets, on ne le lit pas. Après, il faut aller voir sur Internet, tu lis tout et son contraire. On lit qu'il ne faut pas mettre d'agrumes, qu'il ne faut pas mettre d'oignons, parce qu'on embrouille avec les lombricomposteurs. Enfin, il n'y a rien de mieux qu'une petite formation d'une heure pour fixer les idées. Puis les gens se parlent entre eux. Ils s'échangent ce qui ne va pas, ce qui va bien, et il n'y a rien de mieux que ça, que les échanges entre personnes. Quoi. Voilà. Donc, sur cette question, les collectivités ne sont pas toutes aussi en avance, et surtout dans la même loi qui date de 2015 quand même, hein, la loi de transition de 2015, il était marqué que les collectivités doivent faire un plan local de prévention des déchets. Et ça, c'est le syndicat de traitement, le CITRAD, qui est notre syndicat de traitement d'une partie de la Drôme, qui a fait ce plan à la demande de toutes les collectivités qui l'ont délégué en fait. Toutes les adhérents ont dit au CITRAD, ok, vous nous faites le plan. Alors ce plan, il est fait, il est superbe, tout est marqué dedans, prévention des déchets, parce que c'est la loi, donc prévention, c'est avant la poubelle, bah, c'est le compostage, hein. Les biodéchets en premier, parce que c'est 40% de notre poubelle, donc c'est vraiment le truc à faire en premier, qui coûtera le moins cher et qui fera faire le plus d'économies à tout le monde. Il est même marqué qu'on va se rapprocher des associations compétentes pour la formation, c'est-à-dire nous, parce qu'on a été labellisé par l'ADEME pour être organisé de formation. Tout est bien marqué. Sauf que bah, le CITRAD a fait ce plan, puis maintenant, il faut que les collectivités s'en emparent. Il n'y a pas de travail de coordination de la part du CITRAD. Alors que le CIP, qui est un autre syndicat de traitement dans le sud du département, le CIP, il coordonne ce plan. C'est-à-dire qu'il est en train de le mettre en route. Donc c'est lui qui coordonne, qui va installer le matériel, qui va nous faire faire les formations guide composteur et référent de site. Donc c'est complètement différent parce que une collectivité, donc une communauté de communes ou une agglo, quand on lui dit bah non, il va falloir que vous vous en occupiez, ben ils ont toujours d'autres priorités. Alors que si c'est le syndicat de traitement qui lui propose quelque chose un peu clé en main, de toute façon ça sera le même prix puisque c'est les collectivités adhérentes qui payent le syndicat de traitement. Hein, donc le syndicat de traitement, il a l'argent des collectivités, ça, c'est la même chose. Et du coup, bah, le CIP, c'est vraiment en train de se mettre en route. On a, par exemple, programmé là une formation guide composteur par communauté de communes de ce territoire. Et donc, pour nous, c'est la bonne méthode. Il y en a d'autres ailleurs qui font comme ça aussi. Il y a le Valtom, à Clermont-Ferrand et donc en Auvergne. Et bah, là, ça va beaucoup plus vite. Il y a beaucoup plus de composteurs installés et on a déjà les résultats sur la réduction des déchets. Donc en gros, nos activités à composter territoire, c'est plusieurs types. On a tout ce qui est animation, donc animation scolaire, animation pour des adultes aussi, animation pour des publics empêchés. Voilà, donc à la demande, on essaye d'être au plus près de la demande des groupes sur le compostage et le gaspillage alimentaire. Le deuxième pôle, c'est tout ce qui est formation. Donc comme on est organisme de formation, on a été labellisé pour les formations guide composteur et référent de site. Référent de site, c'est ceux qui suivent un site de compostage partagé. Donc c'est en 2 soirées, ça se fait. Et guide composteur, donc c'est un peu plus, ça se fait en 5 demi-journées. Et c'est ces gens-là qui sont assez motivés, qui nous servent d'ambassadeurs du compostage. Après, il y a un autre type de formation que nous, on ne fait pas, qui est maître composteur, qui est donc un diplôme au-dessus. Et actuellement, à Composter Territoire, on doit être 4 ou 5 maîtres composteurs, donc qui se répartissent dans différents sujets. Donc il y a Julien qui fait un peu de formation à l'installation des composteurs dans les collèges et puis un peu de suivi de composteurs. Il y a François qui fait des animations scolaires, gaspillage alimentaire et compostage. Et puis moi qui fait un peu de suivi des composteurs et de la formation. Et puis on a Emmanuel Sapé sur Valence, Livron et qui fait des animations scolaires. Et puis après, on a plein de bénévoles qui sont autour de nous, qui font des stands, qui font des présences au festival, ou qui font de la prospection et de l'animation autour de chez eux. Ça peut être aussi dans l'école de leurs enfants, ça peut être selon un peu ce que les personnes sont à l'aise, qu'elles ressentent, qu'elles ont envie de faire, quoi. Voilà, c'est comme ça qu'on voit les choses.
Si on veut prendre contact avec Composter Territoire, comment on vous trouve ?
Eh ben, le mieux, c'est d'aller d'abord regarder le site. Donc, c'est compost-territoire.org. Et puis après, on peut. Donc, sur le site, il y aura nos coordonnées. Je crois qu'il y a Julien et moi, puisqu'il y a nos numéros de téléphone. C'est nous qui sommes les plus disponibles. Donc, après, on peut nous contacter par mail ou par téléphone. Et puis, il y a un mail info aussi. Si on veut poser une question sur le site, on peut la poser sur info@compost-territoire.org. Territoire au singulier.
Ça veut dire que si on est une école et qu'on a envie d'installer un compost, par exemple pour la cantine, dans une école, on peut faire appel à vous, par exemple ?
Tout à fait, tout à fait. Donc on a des projets comme ça. Alors ce qui est bien, c'est d'être sur une collectivité qui va un petit peu subventionner l'installation et le suivi. Le problème, c'est qu'on a un peu 2 niveaux d'interlocuteurs, parce que la compétence déchets, c'est les communautés de communes. Et les écoles, c'est les mairies. Donc après, il faut que la mairie, elle s'entende bien avec la communauté de communes et qu'il y ait un peu relation entre eux pour que le suivi, l'installation, le matériel soient payés pour l'école. Voilà. Après, on fait des projets pour les écoles où quelquefois, il y a des fonds à l'école elle-même qui sont donnés par la mairie ou qui sont avec les parents d'élèves ou des activités faites par l'école. Mais c'est vrai qu'on bute souvent sur ce problème d'argent. Il faudrait qu'on soit entièrement bénévole pour installer des composteurs, mais ça, on ne peut pas. On ne peut pas. Thank you. Alors en fait, cette semaine, c'est la semaine Café Compost. C'est un événement régional du réseau Compost Citoyen Auvergne-Rhône-Alpes qui développe ça pour que les jardiniers se rencontrent, qu'ils ouvrent leur jardin, qu'ils rencontrent leurs voisins, qu'ils discutent entre jardiniers sur tous les thèmes, pas seulement le compost en fait. Ça s'appelle Café Compost, mais ce n'est pas un très beau nom parce que c'est plutôt conversation entre jardiniers, on pourrait dire. Voilà. Pour qu'on discute entre nous, entre jardiniers. Donc c'est l'entrée jardin du compostage. Et puis de tous les autres thèmes, le paillage, les alternatives au brûlage, comment avoir un jardin ouvert pour la biodiversité, comment accueillir les oiseaux, comment mettre des nichoirs, des mangeoires, des gîtes à insectes, etc. Et aussi cette année, il y a quand même un focus plus particulier sur les économies d'eau, puisqu'on sait qu'on va avoir des étés de plus en plus secs. Il faut vraiment que dans les jardins, on réfléchisse à vraiment des techniques pour économiser l'eau. Donc ça commence par le paillage, toutes les sortes de paillage, et aussi parce que le paillage, c'est une alternative au brûlage et au transport en déchetterie, ce qui coûte très cher à tout le monde, les transports en déchetterie. Donc si on garde nos déchets verts dans le jardin, on économise les transports, on économise le traitement par la collectivité, donc finalement on fait faire une économie à tout le monde, et surtout on garde notre matière, parce que déchets verts c'est un terme qui ne devrait pas exister, c'est une ressource. Voilà, donc on rentre vraiment dans l'économie circulaire, on garde cette ressource, et c'est comme le compost, hein, il n'y a pas de déchets dans la nature, et on essaye d'imiter la nature en faisant resservir cette ressource pour renourrir nos sols, réhabiliter nos sols et revenir à des sols plus riches, plus vivants, quoi. Voilà. Du coup, on est dans le jardin de Mirabel et Blacon, le jardin de Samar, qui est un nouveau jardin partagé qui vient d'éclore et qui est déjà très actif, très dynamique. Et c'est une petite information avec les jardiniers qui vont discuter entre eux sur leur problème numéro un en ce moment, c'est justement ils sont en train de pailler.
Je suis Mathieu Doré.
Eh ben, on est là au jardin de Samar. Nous, on se retrouve chaque mercredi après-midi. Donc, en fait, c'est une espèce de routine. Et sur la sollicitation de Blandine, on se disait que c'était tout à fait approprié d'accueillir un café compost ici. Non pas qu'on ait un compost, mais on développe petit à petit des techniques pour utiliser les déchets verts, pour économiser de l'eau, pour amender notre sol qui, je pense, rentre dans les discussions qu'amène le café compost. Et du coup, voilà. Les jardins de Samar, c'est un jardin collectif, associatif, qui a pour vocation de se retrouver ensemble chaque semaine et bientôt un petit peu plus régulièrement pour jardiner, pour être attentif un petit peu à la vie sauvage, réapprendre un petit peu des savoir-faire autour de la terre, autour de, enfin, voilà, des choses qu'on pense utiles. Et voilà, et on s'est lancé cette année, c'est la première saison au jardin, et petit à petit, il y a une communauté de bénévoles qui se retrouve les mercredis et pas que, notamment lors d'événements un petit peu plus particuliers qu'on peut organiser ici.
Noé Tissot. On a créé une association en fin d'année dernière et du coup on a commencé à faire des choses sur ce lieu. Voilà, on est une association, c'est ouvert à tout le monde, les Blaconnais, les Piégrolais, les Crétois, tous les gens du coin où on n'a pas besoin de montrer sa carte d'identité. Et voilà, on espère ouvrir là maintenant que les mesures sanitaires sont petit à petit levées à des publics en tout genre pour accueillir des événements, etc. Le 26 juin, on fait l'inauguration des jardins. Concerts, spectacles, ateliers.
C'est
cultiver ensemble, faire du lien social, apprendre à jardiner, observer les fleurs, les abeilles, les oiseaux, prendre un temps pour soi et avec les autres.
Moi, je suis Pauline. Et moi, je suis pas du tout, on va dire, à l'origine du projet, mais je suis colocataire de Noé, donc en tout cas bien motivée à venir de façon régulière les mercredis. C'est chouette, il y a de toutes les générations, les enfants, les anciens, les moins jeunes, les plus jeunes. Et c'est trop bien, et j'ai l'impression qu'il y a vraiment une attention qui est portée à ce que ce soit justement accessible à tous, qu'on puisse vraiment tous venir là, avec par exemple des bacs qui sont mis plutôt en hauteur pour les gens qui peuvent pas trop se baisser, pour que ce soit chouette d'accueillir aussi des enfants sans que les parents aient trop peur de la route, du bassin, de tout ça. Il y a une attention collective qui est portée un peu à tout le monde, tout le temps. Donc humainement, c'est super. Et puis en plus, je pense qu'on va réussir à manger des trucs. Donc c'est pas rien. Non, là on a planté je sais pas combien de pieds de tomates, là ça va, quand ça va pousser ça va être du délire. Je pense qu'on va se faire des belles salades apéro partagées, enfin, ça va être aussi l'occasion effectivement de cultiver des choses à manger mais aussi de créer aussi des moments ensemble, peut-être plus en soirée là parce qu'il commence à faire vraiment chaud là pour jardiner, ça commence à être technique, je pense que c'est normal que les gens soient moins motivés à venir cramer l'après-midi là. Mais par contre si on se fait une bonne salade de roquette tomate basilic là à 20h, ça ramènera du monde avec la Drôme à côté, là, ça va être vraiment chouette. Non, je pense qu'il y a des belles volontés.
Pourquoi Compost et Territoire est venu dans le jardin de Samar ?
On a une petite enquête, elle est pas mal votre petite enquête.
L'enquête était spécifiquement sur les solutions qu'on apporte au Jardin de Samar pour l'usage des déchets, les bonnes pratiques qu'on peut avoir pour limiter l'éco-buage, limiter l'apport en déchetterie, etc. Et savoir comment ici on met en pratique des choses qu'on expérimente nécessairement parce qu'en fait on n'a aucune science infuse et aucune certitude. C'est la première année qu'on met en place les potagers, donc on essaie aussi pas mal de choses par rapport au lieu, par rapport à la terre, par rapport aux connaissances de chacun, etc. Et du coup la liste c'était un petit peu de cocher qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place par rapport au lieu. Il se trouve que le lieu c'est à peu près 4000 m² avec deux tiers de champs et un tiers de bosquets. Ce qui nous permet d'avoir déjà une ressource, déjà un espace ombragé qui est non négligeable. Là, maintenant, on est à l'ombre, c'est super agréable à côté du bassin. Et puis, un champ qui est quand même bien exposé et qui, du coup, assez rapidement, pendant l'été, va avoir chaud, la terre va sécher et du coup, il va falloir qu'on trouve des solutions. L'autre gros atout qu'on a sur le terrain, c'est qu'on a de l'eau qui coule en permanence, qui est de l'eau qui est dérivée de la Gervanne. Et par rapport aux bonnes pratiques qu'on a pu mettre en place, donc on essaie différents types de paillage. On a de la paille à proprement parler pour pailler les cultures. On est allé chercher en déchetterie le jour du broyage broyat frais qu'on a ensuite mis nous plutôt dans les allées pour essayer de pas avoir la terre nue et puis matérialiser un petit peu les chemins, les allées pour pas marcher sur nos plates-bandes, quoi. Notamment des 30 arbres fruitiers qu'on a en plein champ qui vont commencer à avoir chaud. Là encore une fois pour limiter l'apport en eau et faire en sorte de garder l'humidité un maximum une fois qu'on a arrosé. Et il se trouve que dans l'aménagement du terrain, on a eu à faire énormément de débroussaillage. Et que ça génère un volume énorme de déchets verts. On n'a jamais même pensé à l'amener en déchetterie. Ce qu'on a fait essentiellement, c'est une essèche. On en commence une deuxième aujourd'hui. On s'est dit qu'on allait la faire. La essèche étant des déchets verts, donc des branches.
Des gros déchets verts.
Des gros déchets verts, voilà. Des branches essentiellement qu'on met en tas organisés entre deux lignes de piquets pour monter comme ça une haie. Il y a en fait plein d'avantages, la première étant effectivement de stocker des déchets verts dont on ne saurait pas quoi faire ou qu'il faudrait qu'on apporte à la déchetterie ou qu'on broie sur place mais on n'a pas de broyeur.
C'est le premier avantage. Deuxième, c'est que ça crée des espaces aussi, ça crée des séparations, ça fait une haie comme toute autre haie, donc ça peut abriter du vent, ça peut générer des petits espaces de chaleur, etc. C'est une interface qui est très intéressante pour la biodiversité, c'est-à-dire que c'est plein de petits espaces qui peuvent accueillir les oiseaux, les reptiles. On voit régulièrement des lézards verts qui se faufilent là-dedans ou des insectes. Et puis, malgré tout, à terme, c'est une haie qui a tendance à se tasser, à se décomposer par le dessous. Et bon, voilà, ça permet...
Il y aura des plantes grimpantes qui viendront par-dessus et il y aura une vie qui se mettra sur la SH.
Ouais, exactement. Bah là, on vient de constater... Enfin, il y a plein de...
La clématite.
De clématite, voilà, qui...
Le liseron.
Ouais, voilà, du lierre, de la ronce, ouais. qui monte sur la haie. Et voilà, qui fait que voilà, ça permet d'intégrer cet élément au paysage. C'est une des façons qu'on a de gérer les déchets verts qu'on a générés ici, quoi.
Faites un jardin de biodiversité. Donc là, j'ai un petit schéma où on voit à peu près tous les moyens qu'on aurait d'accueillir la biodiversité. Donc il y a déjà des trucs que vous faites. Il y a des moyens aussi de désherber autrement. Donc vous paillez, alors ça sert de désherbage aussi. Ça permet d'économiser l'eau en été. Et puis tout ce qui peut accueillir des animaux qui seront nos auxiliaires en fait pour le jardin. Donc là, on voit
les nichoirs.
On voit un abri à hérissons. On voit, qu'est-ce qu'il y a encore
Même des abris à insectes.
Il y a des abris à insectes, voilà, les gîtes ou hôtels à insectes. On a des réserves d'eau, donc des récupérateurs d'eau, ça vous en avez aussi. Après, il y a le choix des cultures aussi. Vous allez prendre des cultures qui sont un peu économes en eau. Vous n'allez pas prendre des trucs trop sophistiqués. Vous allez aussi essayer de vous fournir le plus possible dans les trocs de plantes, parce que c'est là où les gens font leurs graines. Et donc c'est pas des graines hybrides, c'est des graines qui viennent des jardins à côté, qui sont bien plus rustiques et qui donnent vraiment des meilleurs résultats. Ça, pour l'avoir expérimenté, les graines et les plants de troc de plantes, c'est beaucoup mieux que dans le commerce, quoi. Vous avez déjà vachement bien commencé, je trouve, à avoir à la fois un jardin qui est joli, parce que c'est vrai qu'il est déjà très joli, qui va être productif, parce que c'est quand même le but, hein, on ne veut pas non plus juste faire joli, regarder les petits oiseaux, hein, on veut manger des tomates. Et puis c'est une source de connaissances pour les gens qui vont venir et une source de partage de connaissances. Et je trouve ça, c'est super pour un jardin partagé. Partagé, parce que les jardins ne sont pas tous partagés. Il y a des jardins collectifs où les gens ils ont leur parcelle chacun, et ils ne partagent pas forcément les récoltes, comme ici, vous avez partagé les récoltes.
Et sauf, voilà. En fait, c'est même l'inverse. Nous, on se dit jardin collectif, dans la mesure où c'est un seul gros jardin qu'on met en œuvre collectivement. Et souvent, quand on dit jardin partagé, c'est des parcelles réparties. Quand nous, on parlait de jardin partagé, au début, quand on réfléchissait au projet, c'était trop ambigu et... Tout le monde pensait que c'était un jardin qu'on allait découper en parcelles et répartir à la location à des familles. Or, ce n'est pas le cas, ce n'était pas du tout l'idée du projet. Et c'est pour ça qu'on s'est appelé jardin collectif, où, nous semble-t-il, ça parle mieux dans son aspect d'être un lieu où, qu'on partage avec une communauté de bénévoles qui s'approprie le lieu, le potager, le projet, quoi.
Historiquement, c'était les jardins ouvriers et familiaux qui étaient des jardins collectifs. Et après, on a inventé un peu les jardins partagés, comme ce que vous faites, où vous partagez les récoltes. En fait, c'est ça que ça voulait dire.
Ouais.
Un peu une confusion, c'est vrai, dans les termes.
Alors, on s'est réapproprié les termes.
Voilà.
On s'appelle jardin collectif, mais c'est pour la valeur. C'est la valeur du collectif. L'un des gros intérêts, ce qui nous fait vibrer aussi dans ce projet, c'est aussi se donner l'occasion, à travers le jardinage, d'avoir des endroits où concrètement on peut mettre en pratique l'intelligence collective, la façon de décider typiquement comment se répartir des récoltes. On n'a pas tranché encore, mais c'est une question concrète, pratique, de démocratie locale, on doit gérer de l'effort, on doit gérer de la présence. On a un fruit, il y a le fruit de l'effort collectif. Comment on le répartit? Est-ce qu'on le répartit en fonction des nécessités? Est-ce qu'on
du travail fourni?
Enfin voilà, en fait, il va falloir qu'on jauge un petit peu tout ça. On n'a pas tranché.
C'est intéressant.
Mais c'est aussi ce à quoi peut servir un projet de cette allure-là, quoi.
Je pense que là, non, plus profond encore. Je sais pas, ça va jusque là?
Ouais, ça a l'air pas mal là déjà.
Ça va?
Ouais, voilà, peut-être là.
Ok. Deuxième essai. Troisième essai.
Bon, t'as l'impression.
Ouais. Ok, vas-y, si on ferme. Ouais, je peux voir, je peux bouger.
C'est bon, mieux, après, hein.
Il a l'air mieux. Hein. Ouais. Oui. Bon, à mon avis, avant que ça s'envole. Et ben voilà, ben on a une technique.
Okay.
Et ce qu'on peut faire, c'est peut-être mettre celui d'en face et voir ensuite la longueur qu'il faudrait entre les deux. Mmh. Et ensuite, il y a une équipe qui peut commencer à couper du coup 4 traverses.
Ouais.
Et voir aussi la longueur de ici à de là. Et peut-être, si on en a assez, en faire encore 3 de chaque côté là. Ouais, bah tu vois, Ah, vas-y, chercher de l'eau.
La maison près de la fontaine, couverte de vignes vierges et de toiles d'araignée. Sentez la confiture et le désordre et l'obscurité. Les guêpes et les nids des oiseaux. On allait à la pêche aux écrevisses avec monsieur le curé. On se baignait tout nu, tout noir avec les petites filles. Thank you.
C'était l'ADN, émission pour le réseau Dromois d'éducation à l'environnement, par Magali Gray.